Bonjour à tous. Dernière semaine de la saison qu'on ouvre avec le cinéaste couteau suisse Yann Gonzalez, suivi mardi de la plume des favelas Conche Chao Evaristo. Mercredi, la voix du Bénin Angeliki Jo. Jeudi, le geste selon Pina Bauge. Vendredi, le book club de la Grande Table. Nos conseils de lecture pour l'été. Midi 55, ce sera l'actualité des idées. Les philosophes Michel Fossel et Marilyn Maizo, l'écrivaine Annie Arnaud et l'historienne Laurence de Coq nous accompagneront toute cette semaine avant une der des der sur le débat d'idées et les nouveaux clivages apparus cette année. Mais pour commencer aujourd'hui, lundi, vivre sans Dieu, l'ultime transgression. Le philosophe Abdennour Bidar en dialogue ce midi avec Raphaël Glucksmann à l'occasion de la parution du nouveau numéro du magazine littéraire. Bienvenue, nous sommes ensemble jusqu'à 13h30.
La Grande Table, Olivia Gesbert.
Sexe, mensonges et vidéos. Présenté à Cannes, Un couteau dans le cœur sortira en salle mercredi. Prix Jean Vigo cette année, ex aequo avec Jean-Bernard Marlin pour Scheherazade. Le jury a salué l'attention et la tendresse avec lesquelles le réalisateur porte son regard sur le charme suranné et fragile des cinémas de genre et l'art, avec lequel il arrive à en déployer les puissances visuelles et poétiques. Bande-annonce.
J'ai besoin de toi. Dis-moi que tu m'aimes.
Arrête de jouer, c'est fini pour de bon.
Je voudrais sentir ta peau une dernière fois, pour plus avoir peur quand je suis seule, dans la nuit.
Je pensais pas que c'était possible d'aimer autant, aussi longtemps. Tu dois m'aimer. Tiens à moi, Louise. À moi, à moi, à moi.
C'est un de ses amis qui a découvert le corps.
Carl venait de tourner dans un de mes films.
Quel genre de film exactement?
Oh, arrêtez votre charme, fais pas le coup des types, ils sont pas renseignés.
Dans 2 minutes, je veux tous à poil et regarde à vos pleurettes que Giscard. On se soulage avec la main, on est à l'aise entre copains.
Oh, coupé.
Sur le plateau, il était du genre insatiable, les yeux illuminés, à la merci de ses partenaires comme possédés. Vous savez, quand on s'oublie avec l'autre, qu'on sait plus où on est, ça vous est jamais arrivé. Une forme d'amour en quelque sorte, puissant. Sans limite.
C'était le dernier plan du tueur homo. Bravo.
Bonjour Yann Gonzalez.
Bonjour.
Jean Vigo, c'était un peu le Arthur Rimbaud du cinéma, mort à 29 ans après un seul long métrage, des décennies après. Est-ce que vous ressentez-vous une filiation réaliste, poétique peut-être avec le réalisateur de l'Atalante?
Ça serait très prétentieux de dire ça, mais oui, en tout cas, sa liberté, sa poésie, sa manière de jouer avec les formes, et puis sa bienveillance envers ses personnages, oui, je me sens proche de tout ça, et c'est très inspirant, évidemment, quoi.
C'est compliqué d'être un cinéaste libre aujourd'hui?
De plus en plus, oui, j'ai l'impression que le monde est dur et puis les images sont de plus en plus formatées. Donc voilà, on essaie de faire œuvre de résistance, quoi. C'est pas toujours évident, mais on y arrive. Il y a plein de films étranges, libérés qui se font aujourd'hui en France. Je suis pas le seul. Donc ouais, il y a cet espoir, il y a cette émulation, qui fait du bien. Moi, j'ai l'impression qu'il y a plein de camarades autour de moi qui font un cinéma exigeant, un cinéma de la forme, un cinéma romantique. Donc voilà, ça donne des ailes.
D'où le besoin de vous unir, voire de vous réunir et de signer à plusieurs mains ce manifeste du cinéma romantique. C'est pas anodin, en 2018, de devoir signer un manifeste comme celui-ci, qui paraîtrait, somme toute, assez évident. Mais vous dites, on parle beaucoup d'un cinéma social aujourd'hui, il est important, il faut qu'il existe, mais il faut aussi qu'il laisse la place à un cinéma sans message, à un cinéma onirique, à un cinéma de l'imaginaire. Et ça, c'est plus rare.
Ouais, c'est plus rare parce que j'ai tendance à me dire que vraiment la révolution numérique a un peu bouleversé la donne, et le fait de d'avoir ces images numériques très très en prise avec la réalité, avec le quotidien, ce côté très très gris des images très très distants aussi. J'ai l'impression que ça a tué d'une certaine manière l'imaginaire, quoi. Tout le côté organique de la pellicule, toute la magie du cinéma a été un peu mise au banc pendant quelques années. Moi j'ai l'impression que là elle revient un peu par une porte dérobée, une porte secrète, mais elle revient. Et du coup je suis moins désespéré qu'à 5 ans quand j'ai sorti mon premier film. Je me sens un peu moins seul aussi.
Votre film, Un couteau dans le cœur, c'est un thriller dans le milieu du porno gay. Un thriller avec une série de meurtres et aussi une grande histoire d'amour qui se finit, des cœurs qui se déchirent. Envie de vous demander justement, dans cette période où les images circulent partout, où on voit absolument tout, est-ce qu'il y a encore quelque chose qui relève pour vous de l'interdit ou de la transgression dans ce film que vous venez de réaliser? Et est-ce qu'il est peut-être pas là où on le croit?
Je suis pas sûr, et en même temps on est dans une époque tellement régressive que du coup la j'ai l'impression que la transgression aujourd'hui c'est d'être sentimental, en fait. Est-ce que c'est l'émotion, c'est devenu presque un tabou au cinéma. On a peur d'en faire trop, on a peur d'être trop baroque, d'être trop sentimental, hein, on a peur des affects à fleur de peau, alors que moi c'est ce qui me fait vibrer. Je pense que c'est une époque où on n'a plus le temps de rien, et surtout plus le temps de pleurer, plus le temps d'être ému, plus le temps de rêver. Moi j'ai l'impression que, enfin, en tout cas moi j'ai envie avec mes films de créer des espaces où on peut faire tout ça, on peut ressentir les choses plein pot.
Et vous qui êtes un grand fan, Yann Gonzalez, de cinéma de genre, est-ce que vous vous inquiétez de voir ce cinéma de genre basculer vers le mainstream, c'est-à-dire de l'underground, à la marge, d'être en train d'une certaine manière de se banaliser ou d'être en tout cas de plus en plus populaire?
Ah mais non, pas du tout, au contraire, le cinéma de genre c'est populaire, enfin, dans les années 60, 70, 80, c'est des films qui cartonnaient. Par exemple, les premiers films d'Argento en Italie, c'était des cartons absolus. Donc non, moi j'ai pas peur, au contraire, j'ai plutôt envie que la marge, cette marge de cinéma, ces images marginales reviennent au centre.
Alors je reformule, en tout cas, vous n'avez pas peur que la culture subversive de la série B, Z et autres devienne ou soit récupérée par le grand système?
Bah non, je crois pas. On voit à quel point justement ça hérisse les poils quand on met cette culture là au cœur d'un film. Voilà ce qui est le cas d'un couteau dans le cœur. Donc c'est presque hérétique, hein, pour les gens de dire que cette culture là elle est aussi noble que les films de Bergman ou les films d'Antonioni, quoi. Donc je pense que elle garde son pouvoir de subversion, de grotesque, de ridicule aussi, parce que voilà, il y a des choses, c'est des films qui jouent avec le ridicule, avec l'idiotie, au sens fort du terme. J'ai pas peur de ça, au contraire.
Est-ce qu'on peut dire qu'Un couteau dans le cœur est d'abord un portrait de femme? Vous vous êtes d'ailleurs inspiré d'une productrice des années 70 que vous avez découverte dans le très sérieux dictionnaire des films français pornographiques et érotiques de Christophe Bière. Vanessa Paradis, Bière, hein, qui l'incarne, cette femme, Anne, dans votre film, cette femme qui tient son monde quand même, et qui est d'une certaine manière assez autoritaire et aussi touchée, détruite par sa propre histoire d'amour qui est en train de se terminer. On l'a connue dans La Classe, on l'a connue en Femme Oiseau sifflotant dans une pub Chanel. Elle a bien grandi, Vanessa Paradis, et la revoilà donc en productrice de films porno gay, Peine de cœur. Pourquoi avoir pensé à elle?
Parce que c'est une actrice rare. Je trouve que c'est une actrice qui... une star qui aujourd'hui, malgré cette profusion d'images dont on parlait tout à l'heure, réussit à encore à produire du mystère, à produire de l'imaginaire. Il y a quelque chose de secret chez elle. Et je crois que ça donne envie à des cinéastes. Enfin, moi, ça m'a donné envie d'aller plus loin avec elle, d'être dans une intensité folle de tous les instants. Et je crois qu'elle avait envie de cette aventure-là aussi à ce moment-là dans sa vie de femme et d'actrice. Avait envie de pousser les curseurs, quoi.
Alors, est-ce que vos tournages, Yann Gonzalez, sont aussi durs d'une certaine manière et rapides, en tout cas dans l'exécution, que ceux que vous mettez en scène dans ce film?
Non, c'est des tournages plutôt très joyeux, très très lumineux, des plateaux sur lesquels on rit beaucoup. Donc non, on est obligé d'aller vite parce qu'aujourd'hui on a plus de temps. Le temps, c'est un vrai luxe quand on fait du cinéma. Donc voilà, on a un certain nombre de plans à réaliser dans la journée. Généralement, on n'a pas le temps de tous les faire. Donc on cherche des solutions ensemble. Mais voilà, il y a un sens du collectif. Il y a une excitation de tous les techniciens, tous les acteurs. Il y a cette joie presque enfantine de fabriquer des choses, d'être sur un plateau et de voir les choses se créer un peu à vue, comme ça. Tout à coup, un décor qui, avec quelques néons, prend une forme presque fantastique. Des effets spéciaux très très artisanaux qui nous plongent là aussi dans un monde étrange et parallèle. Et j'ai l'impression qu'on est comme des enfants émerveillés devant les images qu'on essaie de produire.
On écoute un nouvel extrait d'Un couteau dans le cœur.
Allez ! Et les garçons, venez ! Voilà ! On s'approche, on s'embrasse Thierry, oui, on s'attoupine, c'est bien slip jaune. Tiens, voilà la patronne. Allez les cocos, on passe aux choses sérieuses. Dans deux minutes, je veux tous à poil et au garde à vous, plus raide que Giscard.
Pauvre Giscard, rappelons-nous qu'on est dans les années 70, dans votre film Un couteau dans le corps, Yann Gonzalez. Le film se situe effectivement dans cette décennie, loue un certain hédonisme qui était autorisé à l'époque, qui l'a été un peu moins dans les décennies suivantes, et pour cause, le sida est passé par là. Malgré des résonances, est-ce qu'il n'aurait pas pu s'inscrire dans l'époque actuelle? Pourquoi vous n'avez pas choisi nos années-là pour raconter ce que vous vouliez faire?
Parce que c'est des années qui esthétiquement me font moins rêver. Voilà, quand je vois la manière dont les rues de Paris étaient filmées dans les années 70, ce à quoi elles ressemblaient, et ben ouais, ça produit en moi quelque chose de fort. J'ai l'impression de vraiment plonger dans un monde de cinéma, dans un monde inconnu où tout fait mystère en fait. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a plus beaucoup de mystères dans les rues qui sont vraiment gangrénés par les grandes enseignes, par le mobilier urbain. Je trouve qu'il y a une laideur en fait qui dévore de plus en plus Paris et puis les grandes villes de province qui finissent par toutes se ressembler. Et cette uniformité là, ouais, elle me fait peur, elle m'inspire pas, pour reprendre un langage sexuel, elle me fait un peu débander en tant que cinéaste.
Faut y aller.
Et j'avais envie à la fois de retrouver la beauté mystérieuse de ces décors parisiens de l'époque des années 70, ce que j'ai pas connu malheureusement, mais que j'ai, parce que voilà, je suis né à la fin des années 70 moi-même, mais ce que j'ai vu à travers les films, et en même temps de pas être dans un film trop fétichiste non plus, trop ancré dans le passé, et du coup d'essayer de le réinventer en injectant, d'une certaine manière, des corps et des visages d'aujourd'hui.
Alors ça passe par quoi, quand on n'arrive plus à se faire son propre film de l'époque actuelle, qu'on décide de repasser effectivement par une décennie qui a pu vous enchanter, de reconstituer ce paradis perdu d'une certaine manière? Est-ce que le travail sur une autre époque, ça passe par la combinaison absolument de plusieurs éléments? On pense tout de suite à la musique qu'on vient d'entendre dans l'extrait de Un couteau dans le cœur, si caractéristique des années 70, mais peut-être aussi pour l'image, par la lumière.
Oui, par tout un tas de choses. Les costumes aussi, et puis les visages, voilà. Chercher des visages qui soient... qui à la fois me rappelle ce des années 70, aller chercher des gens qui sont toujours des grands acteurs, mais qui ont marqué de leur empreinte un certain cinéma. Je pense par exemple à Florence Giorgetti, qui fait une apparition dans le film et qui a été une des actrices principales de La Grande Bouffe, de Marco Ferreri ou de La Dentelière, de Claude Goretta, aux côtés d'Isabelle Huppert. Donc voilà, aller chercher ces gens-là. Mais encore une fois, essayer de les mêler à une jeunesse actuelle que je trouve voilà trépidante, vibrante, hédoniste, elle aussi, pour réveiller un peu ce côté nostalgique et l'amener vers plus de contemporanéité.
Alors dans votre film, Yann Gonzalez, le sexe est omniprésent, mais on a aussi le sentiment qu'il n'est pas central au fond. Pourquoi ? Est-ce que le sexe n'est toujours pour vous qu'un point de départ vers l'amour ou la haine d'ailleurs ?
Oui, enfin un point de départ, c'est un vecteur. Pour moi, le sexe peut être tellement de choses à la fois. Donc là, j'ai plutôt privilégié la trivialité du sexe et d'une certaine manière aussi l'amitié que le sexe peut générer. Parce que pour moi, voilà, ces acteurs du porno, ces travailleurs du sexe, c'est aussi une bande d'amis, une bande de copains qui font des films ensemble et qui sont menacés par un tueur en série qui les décime peu à peu. Mais c'était important pour moi de montrer ce travail si particulier sous un jour joyeux, quoi. Que ces gens-là prennent du plaisir à faire leur métier, parce que c'est vraiment ce que j'ai ressenti en voyant les films de l'époque, pas tous évidemment, mais certains, où voilà, on sentait que c'était des pionniers qui tout à coup faisaient... pour la première fois, l'amour devant la caméra. Et il y avait cette innocence qui se dessinait sur les visages et que j'ai essayé de retrouver à travers les acteurs que j'ai mis devant ma caméra.
Le ludique plutôt que le glauque. C'est votre frère, dans un entretien, qui disait de vous: il y a quelque chose chez Yann d'à la fois solaire et tourmenté que je retrouve dans ce film. C'est une manière d'être obsédé, il parlait du précédent, d'être obsédé par la morbidité, par la nuit et la solitude qui paraît contradictoire avec notre enfance, son traumatisme. Votre frère qui signe une fois de plus la musique du film, ici, D'un couteau dans le cœur, la musique et les sens. Qu'est-ce que la musique provoque en vous? À quelle partie de votre corps elle s'adresse?
Je pense qu'elle inonde tout ce qui est en moi. Elle inonde mon âme, mon cœur, ma tête, mon imaginaire. C'est comme si, en écoutant la musique, tout à coup mon cerveau était en ébullition. La musique m'aide à rêver, à sortir de ce monde et à me propulser voilà dans un ailleurs merveilleux, parfois tourmenté aussi, comme le dit Anthony, mais ouais je garderai ce terme de merveilleux qui me sied assez bien.
Thank you. Le réalisateur Yann Gonzalez est notre invité jusqu'à midi et demi pour son film Un couteau dans le cœur en salle mercredi.
France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert.
Est-ce qu'il y a toujours une part de voyeurisme dans le cinéma pour vous, Yann Gonzalez ?
Oui, je pense que ça vient là encore de l'enfance, du fait que voilà, j'ai grandi en fantasmant les images, en allant chercher des images cachées, des images qui m'étaient interdites. Donc oui, j'ai toujours eu le sentiment d'entrer, de voir des films un peu par effraction, d'imaginer, de voir des bouts de films et du coup d'imaginer tout le hors-champ, forcément subversif, qui m'était interdit. Donc, ouais. Et c'est vrai que le motif du voyeurisme est au cœur du film. C'est vraiment un film qui aurait pu s'intituler, pour reprendre le titre d'un film que j'aime beaucoup, Les yeux, la bouche.
Et vous êtes d'ailleurs raccord dans cette perception que vous en avez du cinéma avec l'un de vos maîtres en la matière, le réalisateur Brian De Palma, qui dans un docu-portrait affirmait qu'être réalisateur, c'est être voyeur, simple définition du métier et de la passion cinéaste. Il était de passage à Paris pour la rétrospective que la Cinémathèque de Paris lui consacre jusqu'au 4 juillet. Et il nous disait qu'il est aussi important de toujours laisser de la place dans ses films à ceux qui nous ont précédés.
We always, learn from the people that came before us.
On apprend toujours des gens qui nous ont précédés.
And if I have done so,
they talk about, me being a Hitchcock imitator. Moi, je parle de moi comme étant un imitateur de Hitchcock. Je suis le seul réalisateur qui ait pris les idées d'Hitchcock et soit allé au-delà. Personne d'autre ne l'a fait. Je suis quasiment le seul qui ait vu le génie de ses histoires, de sa façon de raconter ses histoires et de pouvoir les élargir à des films que j'ai créés moi. En fait, je lui ai payé un tribut, un hommage, je lui ai rendu hommage. Comme lui, c'est la personne qui a initié ces idées dans mon esprit, des idées que j'ai fait fleurir au-delà de ce qu'il a fait lui.
De Palma, nous parlons de Hitchcock qui l'a beaucoup, beaucoup inspiré. Vous êtes aussi un maître de la référence. En tout cas, vous vous laissez parfois guider par vos influences. De Palma, Paul Vecchiali, Lucio Fulci, Verhoeven, Philippe Garrel, tels sont les grands noms qui vous ont aussi accompagné. Ado, vous dévoriez des films fantastiques, des films d'horreur, quelques films X, des films de série B, des films de série Z. Comment est-ce qu'on passe de la boulimie de voir à l'appétit de faire, Yann Gonzalez?
Pour moi, c'est la même chose. C'est des désirs concomitants, quoi. C'est l'envie de construire des images à partir de celles qu'on a vues. Pour moi, c'est complètement naturel. Je continue encore aujourd'hui à dévorer des images dès que je sors d'un projet. Et après, j'essaie de les oublier quand je crée, même si elles reviennent tout le temps un peu à la charge. Si mon inconscient de cinéphile est toujours au travail, c'est vrai que quand on est sur un plateau, on oublie les influences, même si voilà, il faut pas avoir peur de s'inscrire dans la lignée des gens qu'on admire, quoi. Donc voilà, je affirmer son amour pour De Palma, pour Argento, à travers mes films, ben voilà, c'est une manière aussi de d'être un disciple amoureux. Donc, j'assume tout ça.
Top, je suspends le fil parce que ressort justement, et ça fera peut-être votre plus grand bonheur, en salle ce mercredi, en version restaurée, 6 films du grand cinéaste italien Dario Argento, l'une de vos références. Écoutez.
Quell'italiano comincia a preoccuparmi. Questo disse Alfred Hitchcock, maestro del thrilling, dopo aver visto il primo film di Dario Argento. Quel film capolavoro era L'uccello dalle piume di cristallo. She's all red, violets are blue, but the iris is the flower that will mean the end of it.
Suspiria.
Six films, opéra, Phénoména, Suspiria, Les frissons de l'angoisse, Le chat à neuf queues, L'oiseau au plumage de cristal, vous en retenez un ?
Si je devais en retenir qu'un, ça serait Suspiria, évidemment. Je crois que c'est un des tout premiers que j'ai découvert, et c'est le plus baroque, le plus magique, le plus échevelé. Ça commence par l'arrivée de l'héroïne dans un aéroport, et d'emblée, ça pourrait être quelque chose de totalement banal, mais tout est saturé de couleurs, de formes, de musique. Donc on est déjà dans la magie dès les premiers plans du film. Et ce cinéma de l'excès, bah oui, forcément, il me parle beaucoup. Et Suspiria, j'ai dû le voir, je pense, une trentaine de fois depuis la première découverte.
Cinéaste voyeur et aussi un peu sadique, Dario Argento, non, dans ses
films.
Ouais,
il y a beaucoup de cruauté, ouais, évidemment. Une cruauté sexuée, souvent, parce que voilà, les meurtres sont empreints d'érotisme, de femmes complètement sublimées. Donc tout est sexuel, tout est sexualisé, quoi. C'est vraiment ce qui me manque dans le cinéma d'aujourd'hui, cet érotisme des images que Argento a su magnifier.
Vous savez qu'il va y avoir un remake de Suspiria qui paraîtra en novembre. Ça vous fera peut-être mal si ce n'est plus avec Dario Argento derrière la caméra. Pourquoi, et on terminera là-dessus, il est encore moderne pour vous, ce cinéaste? On a l'impression que son esthétique revient d'une certaine manière aussi à la mode aujourd'hui.
Ouais, parce que je crois que c'est à sa manière un cinéaste romantique, un cinéaste qui n'a pas peur d'en faire trop, et qu'aujourd'hui on est dans une société tellement balisée, tellement conformiste, que quelqu'un qui crève à ce point l'écran, qui rend toutes les choses absolument folles, délirantes, le moindre détail devient baroque chez Argento, bah évidemment ça fait rêver. On a besoin de ça absolument, quoi.
Voilà, on a bouclé la boucle. Merci beaucoup, Yann Gonzalez.
Merci.
Ressorti en salle donc ce mercredi, à faire se restaurer des six films du grand cinéaste Dario Argento, et sorti de votre film à vous, Yann Gonzalez, Un couteau dans le cœur, je le rappelle, prix Jean Vigo cette année. Merci mille fois à vous.
Merci beaucoup.